Dans le passage où nous avons lu tout à l'heure, le livre des Actes, c'est un livre que Luc écrit qui raconte l'œuvre du Saint-Esprit chez les disciples du Seigneur. Le livre des Actes fait suite à l'évangile de Luc. Quand Luc a écrit l'évangile dans sa tête, il va écrire le livre des Actes. Et ça continue aussi ce que Matthieu a écrit dans Matthieu 28, 18 à 20. Vous allez le lire ce passage tout à l'heure. Donc, livre des Actes, c'est très important pour chaque chrétien parce que c'est dans ce livre nous apprenons comment l'Église a commencé à partir des apôtres et des disciples du Seigneur. Ça a commencé avec Pierre qui est à Jérusalem, dans Judée. Après, Philippe est allé jusqu'à Samarie, ensuite jusqu'à l'apôtre Paul, jusqu'à Rome. Donc vraiment, c'est un livre qui continue jusqu'à nous aujourd'hui. Le livre des Actes, c'est jamais fini. Je pense qu'il terminera le jour du retour du Seigneur. Alors, dans le passage que j'ai lu tout à l'heure, j'ai noté trois choses importantes. Luc, il a parlé de la souffrance du Christ après avoir souffert. Donc, vraiment, c'est la croix que Jésus est allé là-dessus pour chacun de nous. On a prié tout à l'heure, nous ne méritons pas la vie et Jésus est allé mourir à la croix pour notre vie. Il a pris la sanction, condamnation à mort du Dieu le Père sur lui. Donc, il est vraiment aller jusqu'au bout pour accomplir la mission que le Père lui a donnée. Après avoir souffert, la deuxième chose que Luc a notée, a annoncé, c'est la résurrection du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 6, Paul a précisé que le Seigneur s'est révélé, après sa résurrection, il s'est révélé à plus de 500 frères. Et ici, Luc nous a précisé que le Seigneur, une fois ressuscité, il est allé se présenter avec ses disciples, avec les apôtres, et il est resté 40 jours. 40, c'est un nombre important dans la Bible. Ça vous fait penser à quel événement, quel personnage? 40 ans dans le désert, la tentation du Seigneur. Ah, Moïse, 40 ans dans le désert. D'accord. Ok. 40 ans, ouais. Mais Moïse est resté 40 ans à faire le berger aussi. 40 ans dans le palais, Sinaï, et après 40 ans dans la misère, et puis à 30 ans dans le désert. Toujours 40 ans. Je pense que 40 jours, c'est un peu aussi un nombre de l'épreuve. Alors, pourquoi le Seigneur s'est présenté pendant 40 jours avec les disciples? Je pense que c'est aussi pour leur montrer que vraiment il est réellement ressuscité. Parce que s'il y a des gens de mauvaise foi qui disent que ce n'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ n'est pas réelle. Donc je veux bien, s'il y a une personne qui hallucine, d'accord, mais 500 personnes qui hallucinent en même temps, qui durent 40 jours, c'est vraiment une preuve, c'est un fait historique que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. La preuve, en fait, la Pâque chaque année. Mais c'est vrai, dans tout cela, c'est encore la foi. Parce que récemment, cette semaine, j'ai parlé à un malade à propos de Jésus-Christ, j'ai annoncé l'évangile. Je lui ai dit, tu sais, dans aucune religion, aucun est Dieu. Toutes les personnes Bouddha ou d'autres, ils ne sont que les hommes. Et nous, le christianisme, Jésus-Christ, c'est le seul Dieu qui a pris la chair et puis qui est mort et qui est ressuscité. Et mon malade, il me dit, c'est un chinois, il me dit, qui me prouve qu'il est ressuscité? Alors je lui dis, il s'est représenté à 500 personnes. Il m'a dit, ça suffit pas. Il faut qu'il s'est présenté au monde entier pour que ça soit vrai. Mais bon, j'ai arrêté là parce que je me suis dit, c'est aussi par une question de foi, et comme il ne savait pas, c'est un chinois, donc il s'est dit athée, il ne connaît pas la Bible, il n'est rien. Mais bon, du coup, je me suis arrêtée là, je lui ai dit que vraiment, C'est un fait historique, tu ne peux pas le nier. Je pense que le jour où il est touché par le Saint-Esprit, il va croire que c'est vrai. Mais il y a quand même une preuve historique, puisque en fait, tous les ans, la fête de Pâques. C'est ce que je dis souvent à des non-chrétiens. Je vous dis, si vous n'êtes pas chrétien, si vous ne croyez pas à la résurrection du Seigneur, alors ne reposez pas ce jour-là. C'est la fête pour les chrétiens, pour nous qui croyons. Voilà. Bref, voilà. Alors, le Seigneur, il est resté 40 jours aussi pour leur parler du royaume de Dieu. Comme on a chanté tout à l'heure, pour l'instant, le règne de Dieu, c'est dans notre cœur. Tout ça, on a chanté, prends mon cœur, prends tout ça. Donc, le royaume de Dieu n'est pas révélé visiblement apparent à tout le monde. Il est que dans notre cœur. Ça sera visiblement par tout le monde au retour du Seigneur. Donc, le jour-là, il y aura un jugement pour ceux qui ne croient pas. Il y aura, comme le Seigneur l'a dit, les cris et les pleurs amers. Je reviens sur la résurrection du Seigneur. Ça démontre la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité le Seigneur. Et aussi, ça démontre la victoire du Christ sur la mort. Puisque Paul a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc le Seigneur, il est ressuscité le troisième jour. Donc, il a vaincu la mort. En même temps, il a vaincu le péché. Ah, d'accord. Et vraiment, c'est la résurrection, ça me travaille beaucoup parce que au départ, quand je suis devenue chrétien, je voulais simplement envoyer la paix. Et finalement, j'ai compris que la paix, c'est une part de petites choses. C'est la résurrection avec Christ. À son retour, c'est ça la glorieuse chose que Dieu nous préserve. C'est pour ça que je vous vraiment exhorte de lire 1 Corinthiens 15. Il y a dans 1 Corinthiens 15, 14 à 23. C'est vraiment, moi j'aime bien ce verset 14 à 23. On va lire tous ensemble. Je trouve que c'est 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication, c'est la même chose. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il n'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang, Christ en premier, et ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Amen. Ça encourage beaucoup, ça, en tout cas, ça m'encourage beaucoup. Quand je suis face à des épreuves, des choses comme ça, je me suis dit, on est vraiment comme des résidents temporaires, on est des étrangers sur la terre, et nous, ce que nous attendons, c'est rentrer chez nous, avec le Seigneur. C'est pour ça que dans, un peu plus loin, dans le verset, toujours dans le 15, Corinthiens 15, verset 55, Paul, il a dit, « Oh, mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ?» Dans la résurrection du Seigneur, c'est vraiment l'espérance pour nous, les chrétiens, pour ce qu'on croyons. Comme Paul l'a dit tout à l'heure, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi, notre œuvre, tout ce qu'on fait, c'est en vain. Et il y a encore un chapitre que j'aime bien, c'était dans 1 Corinthiens. Je vais vous le résumer simplement, le 42 à 44. Vous savez que le jour quand Christ revient, notre corps qui est né corruptible, on sera ressuscité incorruptible. Qui est né méprisable, on sera ressuscité glorieux. Le corps qui est né faible, on sera ressuscité plein de force. Qui est né naturel, on sera ressuscité spirituel. Donc, Paul, il aime bien parler de vêtements, de vêtir et revêtir. Donc nous, notre corps qui est corruptible sera revêtu par l'incorruptibilité. Notre corps qui est mortel sera revêtu par l'immortalité. C'est super, hein? Non? Il n'y a pas de alléluia? C'est pas pour ça qu'on croit? J'ai pensé à des films là, c'était immortel, il y a un film avant. Mais c'était que des fictions. Et nous, ce qu'on croyons, c'est sûr. Voilà, c'est vraiment, dans Christ est vraiment ressuscité. La troisième chose que j'ai notée, ce que Luc a dit, c'est l'ordre que le Seigneur leur a donné à ses disciples. Il leur a dit, restez, ne s'éloignez pas de Jérusalem. Alors, attendez pour recevoir quelque chose. Alors, le Seigneur, quand ça me fait penser, c'est vrai, le Seigneur nous demande la patience. C'est parmi le fruit du Saint-Esprit. Donc, nous, chacun de nous doit apprendre vraiment la patience. Donc, l'attente. Le Seigneur nous demande d'attendre. Déjà ici, le Seigneur demande aux disciples d'attendre. C'est pour vous. L'attente, la persévérance, c'est un des vertus des disciples. Donc, j'ai regardé la Bible. Dans l'Ancien Testament, il y a une personne qui n'a pas attendu. C'est le roi Saül. Samuel lui a demandé d'attendre 7 jours. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait au 7e jour, juste avant l'arrivée de Samuel? Il a pas attendu. Il a offert le sacrifice. Il a pas obéi à l'ordre de Dieu d'attendre 7 jours. Par contre, Joseph, il a su attendre. Il a attendu des années. Somme c'est 14 ans. Et après, il est devenu premier ministre d'Égypte. Donc, vous voyez, l'attendre, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur a donné à ses disciples. Nous sommes ses disciples. Donc, ça me fait comprendre que parfois, dans notre mission, dans notre ministère, on ne doit pas précipiter. La précipitation n'est pas bonne. L'auteur du proverbe a dit aussi, hein. Donc, toujours attendre. Attendre que le moment du Seigneur soit avec notre moment. Le timing de Dieu soit le nôtre. Sinon, quand ça marche pas, il faut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Parce qu'on sait pas attendre. Je pense que ce moment d'attente, c'est vraiment important. Je pense que pour moi, qui est quelqu'un qui est impatient, peut-être parmi vous aussi, on doit apprendre, c'est vraiment une leçon à apprendre. Je pense depuis que je suis avec le Seigneur, il m'a appris beaucoup de choses. J'attends encore maintenant aujourd'hui une promesse qu'il m'a donnée. Bientôt 10 ans, c'est pas encore réalisé, mais j'attends encore. Parce que Abraham, il a attendu 25 ans pour avoir Isaac. Donc voilà quoi. Mais j'ai dit au Seigneur, 10 ans, ça fait beaucoup quand même. Je le harcèle tous les jours. Je vous dirai qu'est-ce que j'attends. Quand c'est ça accompli, ça sera à la gloire du Seigneur. Bon, alors, le Seigneur, il demande aux disciples d'attendre. Pourquoi attendre? Jésus a dit pour recevoir ce que le Père a promis, ce que le Seigneur a prié pour eux. Donc, vous savez tout, c'est le don du Saint-Esprit. Voilà. Donc, là, dans Actes 2, 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont attendu et ils ont reçu comme le Seigneur a promis. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Les langues qui rassemblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà. Promis et accompli. Voilà. Donc, l'obéissance, ça amène la bénédiction. C'est vraiment un bon exemple que chacun de nous peut apprendre. Alors, la Pentecôte, c'est la deuxième fête annuelle pour les Juifs. C'est la fête des moissons. C'est la reconnaissance pour les récoltes. Alors, la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Donc, le Seigneur est ressuscité le jour de la Pâque. Il a passé 40 jours avec les disciples, donc 50 moins 40, 10 jours. Donc, ils ont attendu 10 jours, ils ont reçu ce que le Seigneur a promis, donc le Saint-Esprit. Alors, ici, la Bible nous dit que le Saint-Esprit se posèrent sur eux sous les formes de feu. Alors, le feu, ça fait quelque chose. C'est le feu qui brûle. Donc, il brûle toutes nos impuretés qui sont en nous, ce qu'on a chanté tout à l'heure, qui nous gêne notre rapport, notre relation avec le Seigneur. Et, dans l'autre sens, il embrase nos cœurs pour nous aimer le Seigneur et aimer annoncer la bonne nouvelle pour aux autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Et dans l'Ancien Testament, le jour où Dieu conclut l'alliance, l'ancienne alliance avec le peuple d'Israël, dans Exode 19, 16 à 18, Dieu s'est présenté au milieu du feu. J'ai enlevé mes Exode 19. Vous vous souvenez un peu ou par l'Exode? C'est Dieu les a sortis. Ouais, je cherche où. 19, 16 à 18, je vais vous lire. Le matin du troisième jour, il y a eu des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'est levée comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne se tremblait avec violence. Voilà. C'est l'apparition de Dieu avec au milieu de son peuple pour la première fois, pour conclure l'alliance avec eux, dont Dieu s'est présenté au milieu du feu. Le feu, c'est quelque chose qui symbolise la présence de Dieu. Donc, nous avons vu que avec leur obéissance, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est bien ce que Pierre a fait. Il a prêché. Et ce jour-là, il y a eu 3000 personnes qui est le nombre total des chrétiens se compte à 3000 personnes. C'est la première campagne évangélisation que Pierre l'a fait. Oui. Voilà. Donc, le Seigneur, il est vraiment fidèle et bon. Quand ils envoient ses disciples, il ne les envoie pas les mains vides. On ne part pas avec nous, notre propre force, notre propre moyen. Il nous équipe par le Saint-Esprit. Le troisième moment, je vois avec vous l'œuvre du Saint-Esprit. Le verset 1, Actes chapitre 1, verset 8, c'est vraiment un verset clé, comme Matthieu 28, 18 à 20. Vous recevez une puissance en haut et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité du monde. Ce verset-là, c'est le fil conducteur de Luc dans le livre des Actes. Puisque dans les cellules maison, on est en train de terminer. Donc on a lu que c'était les apôtres par apôtres, ça conduit jusqu'à Rome. À l'époque, Rome, c'est considéré comme l'extrémité de la terre. Puisque à l'époque, l'Empire romain, c'était comme l'Empire USA maintenant, mais bon. Alors, c'est comme si Paul il est allé jusqu'à Washington ou New York, si vous voulez. Et là, à l'époque, c'est Rome. C'est pour ça l'œuvre du Saint-Esprit, j'ai parlé un peu avec vous, c'est Dieu nous donne son esprit, pas pour que nous prions dans l'angle ensemble et puis comme ça, quoi. Mais pour le servir, pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. Si vous lisez l'évangile de Jean, du chapitre 14, 15 et 16, Jean a bien bien parlé du Saint-Esprit. Je vais vous relever quelques versets. Dans Jean 14, 26, Jésus leur dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 15, 26, le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ et vous rendrez témoignage de moi. C'est ce que nous en train de faire, parce qu'on va aller tout à l'heure ou demain dans la rue, dans les rues, rendre témoignage de ce que Christ nous fait dans notre vie, pour que les autres puissent connaître Christ. Le Jean 16, 8, le Saint-Esprit convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, le péché, Christ a dit, Jésus a dit, parce que le monde n'a pas cru en lui. Mais c'est vrai, quand vous regardez le monde entier, le nombre de chrétiens, est-ce qu'il y a beaucoup, ou des non-chrétiens, qu'il y a beaucoup? Alors, pour la justice, Jésus dit, parce que je reviens auprès du Père. Pour le jugement, Jésus a dit, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc, Satan est déjà chaos. Donc, quand on partons avec le Saint-Esprit, nous sommes des ambassadeurs vainqueurs du Christ. Donc, n'ayons pas peur, même si on a peur, il y a le Saint-Esprit en nous qui nous chasse la peur. Le Saint-Esprit transforme notre vie, vous le expérimentez chacun, je pense. Quand on a le Saint-Esprit en nous, quand il nous embrasse, notre vie change. Et là, je vous affirme, je peux donner mon exemple. J'étais pas chrétien jusqu'à l'âge de 45 ans. Et puis à partir de 45 ans, je me suis convertie. Et c'est vrai, quand j'ai reçu cette bonne nouvelle, je me suis dit, zut, je peux pas le garder pour moi. Du coup, je commençais vraiment à parler autour de moi, quoi. Mais de façon maladroite. Je dis souvent aux gens, si vous croyez pas, vous allez en enfer, comme ça, mais bon. Maintenant, avec du temps, j'ai appris à être un peu plus la façon comment évangéliser. Et donc, j'observe les frères et sœurs là depuis ces 4 ans que je suis à Saint-Maur. Il y a deux jeunes que je suis vraiment content pour eux. Il y a Samuel Taille, il m'a épaté. Quand il est rentré de la Chine, il était, on va dire, un chrétien lambda. Mais petit à petit, il a été, il a à chaque fois, parce que dans notre cellule maison, il parlait, il allait maintenant tous les mardis soir à Montreuil pour évangéliser. Puis autour de lui, il est allé à Marseille et tout. J'ai dit, Seigneur, merci pour ce frère, je vois vraiment, il a le Saint-Esprit qui embrase. La deuxième personne, c'est Laurent. C'est pas parce que c'est mon fils que je fais l'éloge. Non. Laurent a 16 ans. Quand il avait, jusqu'à l'âge de 14 ans, tu me corriges si tu es faux. Avant 14 ans, il n'évangélise pas beaucoup. Il ne parlait pas trop de sa foi à l'école, ni, quand il a... Après. Quand il invite, comment dire, quand il a une bonne relation avec ses copains de l'école, quand il invite les copains au fête anniversaire, c'est moi qui creusais la tête. Je dis, comment je fais pour évangéliser ses copains? Donc, une fois, c'était la fête de Pâques. Donc, j'ai demandé, je posais la question, est-ce que vous savez pourquoi on fête Pâques? Mais, à ma grande surprise, il y en a trois sur la moitié, ils savent que la fête de Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Alors que, parce que j'avais peur qu'ils vont dire, c'est pour chercher les lapins de Pâques, les œufs de Pâques, je me suis dit. Donc, du coup, j'en ai profité pour parler de la résurrection du Seigneur. Mais vous voyez que si c'est moi qui parle, la maman qui parle, il n'y a pas trop d'impact. Donc, comme ça, j'ai prié. Mais à partir de 15 ans, Laurent, il est embrasé. Il commence à démarrer un groupe d'études de découverte de la Bible chez nous. Donc, Laurent, il remplit l'état spirituel de ses copains. Moi, je remplis l'état du ventre de leurs copains. Comme ça, voilà. Et là, pareil, continue. Il va à Montreuil les mardis. Mais maintenant, il est en premier, il n'a pas trop de temps. Et je vois, sa vie a changé. C'est embrasé. C'est sûr, il y a d'autres, mais là, il est de là, ça m'a vraiment beaucoup, je suis vraiment contente de vous voir ensemble, hein, tous les deux. Et puis, merci Michael, parce que Laurent, une fois, il a invité Michael à aller au RER de Logne, faire un stand d'évangélisation, c'est vraiment super. Voilà, enfin, pour vous dire, quand on a l'Esprit Saint en nous, on ne peut pas rester chez nous, garder cette bonne nouvelle, et puis dire les autres, tant pis, s'ils vont en l'enfer. Non, on a vraiment envie de partager. Mais moi, je suis un peu... C'est vrai, moi, en tant que médecin au cabinet, je ne peux pas faire comme si vous allez dans la rue annoncer à tout le monde. Je dois être un peu plus sage. Laisser, pareil, dirigé par le Saint-Esprit. Voir avec quelle personne je peux parler. Quoi. Voilà. Donc, j'aime bien l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens 9, verset 16, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et puis, je vois avec vous, vous vous souvenez quand Jésus a dit, vous serez mes témoins, d'abord à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la et oui. Amen. Alors, Jérusalem, Judée, c'est quoi concrètement pour toi et moi là? Il parle, on n'est pas à Jérusalem, on est ici. Alors, c'est les gens proches autour de nous, c'est nos familles, les proches. La Samarie à l'époque, c'était un peuple étranger, païen, qui s'est mélangé avec les Juifs. Donc, nous, c'est nos voisins, nos collègues, nos camarades de classe, tous les gens qu'on connaisse, mais pas beaucoup. Enfin, l'extrémité du monde, c'est tous les autres, les étrangers qu'on connaît pas. Mais merci Seigneur, parce qu'en France, il y a beaucoup de pays qui sont là. Déjà, dans ma rue, j'ai des Arabes, j'ai des Vietnamiens, j'ai des Cambodgiens, j'ai des Français, j'ai tout le monde, quoi. Donc, il faut juste que je prenne le courage des invités, avoir d'abord démarrer avec une relation, amitié, ensuite partager, quoi. Bon, chacun de vous, c'est pareil. Je crois que, de toute façon, on a partagé nos causes. Auprès de vous, même à l'école, Samuel, tu as dit, hein, t'as pas beaucoup de nationalités qui sont autour de toi, hein. Tatiana aussi, t'as des copines qui sont de différentes nationalités. Donc c'est super, quoi. On n'a pas besoin de partir trop loin, même. Si, on doit partir loin, mais tout près de nous, profitons à ceux qui sont autour de nous, que le Seigneur mette pour annoncer vraiment l'évangile. Voilà, donc c'est vraiment le Seigneur nous donne nos équipes pour vraiment parler de lui. Nous sommes tous sauvés par la grâce, par le don de Dieu. Et Dieu nous a donné son Esprit Saint l'apôtre Paul l'a dit, c'est un compte pour dire que vraiment nous appartenons à Dieu. C'est une marque que Dieu nous marque. Nous avons la certitude de vraiment de retourner chez nous un jour. Donc, auprès du Seigneur, le nouveau monde, le nouveau ciel. Donc, ne pas rester toujours au chaud, garder ça pour nous, et puis les autres, tant pis, si ils vont à la perdition. Non, le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est vraiment en chacun de nous, je pense qu'on doit sentir cette flamme qui brûle, qui nous fait envie d'aller partager. C'est comme quelque chose qui fait gratter si on ne fait pas. Voilà, quoi. J'espère que vraiment chacun est embrasé par le Saint-Esprit dans le sens pour évangéliser. Mais ne sentez pas que je vous vise si vous n'êtes pas trop chaud pour évangéliser. Je pense que pour chaque personne, il y a un moment. Pour Laurent, il a attendu quelques années pour faire. Pour chacun, c'est pareil. Donc, si le moment, mais n'attendez pas trop longtemps quand même. N'attendez pas à la retraite pour le faire. Parce que le Seigneur te donne quelque chose, il te demande compte. Vous vous souvenez de la parabole des deniers? Le Seigneur nous donne des dons. Dons, c'est pas pour que tu gagnes les richesses de ce monde, mais que tu gagnes un compte dans le ciel. Donc, si tu fais comme celui qui a reçu 1 euro, il va enterrer sur la terre et que le Seigneur revient, là, c'est mieux quand même que tu investis pour le Seigneur. Voilà, c'est vraiment, je trouve que, alors, pour terminer, il y a le verset Matthieu 28, 18 à 20. Je suppose que pratiquement la plupart des gens, on a fait exprès avec Francis, parce que Francis, il m'a dit, il connaît par cœur, et moi aussi. On est déjà à 2 à connaître par cœur. D'autres connaissent par cœur. On va réciter tous ensemble sans texte. La version tu connais, c'est pas grave. Bon, on y va. Tout pouvoir m'est donné sur la terre et dans le ciel. Attends, tu commences? Non, on commence avec, oui, Jésus s'est approché et leur dit, tout pouvoir m'est donné sur la terre et dans le ciel. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-les à mettre en pratique tout ce que vous avez appris, et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà, c'est bien, hein, vous connaissez tous, là. Tout le monde le connaît. Super. Merci Seigneur. Bon, je vais prier pour terminer. Abba Père, merci pour le don de ton Fils, la vie de ton Fils, pour nous racheter, Seigneur. Tu n'as pas payé avec de l'or, l'argent ou des pierres précieuses, mais tu as payé avec la vie de ton Fils unique, Seigneur. Que nous pouvons toujours se rappeler de cela, comme dit Paul dans Éphésiens 2, Seigneur. Que nous sommes sauvés par la grâce, en moyen de la foi, cela ne dépend pas de nous, c'est un don de toi, et cela ne dépend pas de nos œuvres, pour que personne ne peut se vanter, Seigneur. Et merci pour le don du Saint-Esprit aussi, Seigneur, pour transformer notre vie, pour nous aider à vivre vraiment une vie de sainteté, et ressembler à ton Fils, pour qu'on puisse refléter ta gloire auprès de ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Je te remets la suite de cet après-midi et cette soirée, Seigneur, pour le début de la semaine d'évangélisation de l'église de Saint-Maur, Seigneur. Merci à tous les frères et sœurs qui ont pris sur leur temps pour venir consacrer cette semaine, soit en mi-temps ou en plein temps, Seigneur, pour annoncer ta bonne nouvelle à toutes ces personnes qui sont encore à la perdition, Seigneur. Et unis-nous, Seigneur, par ton amour, par ton esprit, Seigneur. Que tout se passe vraiment comme tu le veux, Seigneur. Et que ça, tout se passe dans la joie et la paix, Seigneur. Et prépare toutes les personnes que nous allons rencontrer dans les rues, près de RR, partout, Seigneur. où tu nous envoies, Seigneur. Prépare vraiment leur cœur, Seigneur, que ça soit une bonne terre, nous puissions semer la graine de ton royaume, Seigneur. Et bénis tous les autres frères et sœurs qui n'ont pas pu participer, qu'ils nous soutiennent, Seigneur, par leur prière, et pour par inviter les personnes, d'autres personnes à venir à la soirée du vendredi soir, Seigneur, pour pouvoir entendre le message, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen.